ils allaient renoncer à inscrire sur leur déclaration de revenus leurs dons pour la souscription des 11 millions de l'UME. Car cette souscription coûte à l'État à peu près 5 millions sous forme de réduction d'impôts. Et récupérer 5 millions, c'est déjà un début par les temps qui courent. Mais hélas, ce n'était qu'un rêve. C'était Armand.
Ça y est, dormez tranquille, Français et Françaises. L'épidémie de Galle ne va pas atteindre vos foyers, car les campements de Saint-Gat ont été dispersés et les clandestins qui y habitaient ont été désinfectés, gazés, donc tout va bien. Au revoir, c'était Leonarda de Herblay dans le Val-d'Oise.
Les chiens de garde aboient beaucoup en agitant l'épouvantail du Front National, dont ils sont d'ailleurs de moins en moins convaincus de la nocivité. Mais le soufflet médiatique va retomber sans aucun commentaire sur le mépris des institutions face aux électeurs européens. La commission dirigée par Barroso va tranquillement continuer de tracer sa route libérale avec un Parlement qui, dans les rapports de force, n'a en rien changé.
On vient de voir passer la tête coupée de Jean-François Copé. Et en plus, ça rime. Terminé.
Bonjour Marc des Pyrénées. Je souhaitais laisser un petit message parce qu'en fait, je vois tout le monde sur le répondeur qui s'énerve sur le Front National, savoir s'il est raciste, pas raciste, etc., etc., et sur l'enjeu des élections. Bah, j'aimerais juste me rappeler, sans être un peu péremptoire, que j'ai comme l'impression qu'on parle d'élections, de gens qui vont rien faire, qui servent à pas grand-chose, c'est-à-dire le Parlement, et qu'on oublie toutes les décisions sont prises par la Commission. Donc, vu sous cet œil, l'élection revêt un intérêt quand même très différent. Allez, salut à tous et merci pour votre émission.
Et merci pour vos messages, chers AMG de l'Ascension. Et l'Ascension, je suis sûr que... Oh, combien êtes-vous à savoir ce que c'est l'Ascension aujourd'hui? Si on faisait un sondage. Bon, je vous pose une question. La vérité, ça sert à quoi, la vérité? C'est quand même une question qu'on pourrait finir par se poser... Nous autres, par exemple, les journaleux, là, la vérité, on est à la recherche de la vérité, en principe. C'est ça notre boulot, hein, c'est de chercher la vérité, et puis de vous amener la vérité. On n'est pas les seuls, il y a plein de gens qui courent derrière la vérité. On est tous persuadés que la vérité, c'est une très très grande vertu, c'est indispensable à la vie, à l'émancipation, à la justice, etc., etc. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche, ça, cette histoire de vérité? Vous savez que le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année dans le monde. Vous savez que le tabac a tué 100 millions de personnes au cours du XXe siècle. Et vous savez que les industriels du tabac sont condamnés régulièrement à des milliards de dollars d'amendes. Vous savez qu'ils sont astreints par la justice à rendre publics leurs documents les plus secrets, prouvant leur stratégie meurtrière. Et ben, pourtant, l'industrie du tabac se porte bien. On prétend qu'aux États-Unis, il y a un fléchissement quand même, ça descend un petit peu, mais chez nous, par exemple, ça ne baisse pas du tout. Alors, à quoi sert la vérité? C'est une question qu'on peut se poser. Regardez ce qu'on appelle les whistleblowers, les lanceurs d'alerte. Hein, Assange, Julian Assange, vous vous souvenez qu'on l'avait rencontré, Chelsea Manning, et Edward Snowden, qui à nouveau fait parler de lui, Edward Snowden, qui vient de parler là ces jours-ci. Eh bien, ils sont des traîtres, évidemment, pour le pouvoir et pour ceux qui sont du côté du pouvoir, qui sont du côté du manche, mais ce sont des héros pour tous ceux qui refusent que le pouvoir et ceux qui sont du côté du manche cachent des stratégies qui sont opérées en notre nom, en notre nom. Eh bien, à quoi ça sert, ça, quand c'est publié, quand on a Wikileaks qui publie des quantités de documents, quand Snowden dévoile des quantités de choses? Ça sert à quoi, la vérité? C'est la question avec laquelle on est venu voir, au mois d'octobre dernier, Noam Chomsky à Boston. Ça fait pas mal d'années qu'on, de temps en temps, va voir Chomsky. On en a fait un film, vous le savez peut-être, vous le savez sans doute. Ça vous a pas échappé. Et là, on va parler de ça. On va parler de La vérité, à quoi ça sert? Parce que ce qui se passe avec Snowden, avec ces lanceurs d'alerte, avec Wikileaks, il y a des précédents aux États-Unis avec l'histoire du Pentagon Papers. Pentagon Papers, c'était en 1971, et il y a eu, un peu de la même façon, de courageuses personnes pour faire sortir, pour faire fuiter des documents militaires secrets qui ont été clandestinement transmis au New York Times et qui ont dévoilé. Soudain, ça a été une véritable bombe. Les mensonges du pouvoir concernant la guerre du Vietnam, les mensonges sur les intentions, sur le nombre de victimes, sur tout. Et soudain, ces énormes documents, 7000 pages, prouvaient tout cela. Et il y avait celui qui a fait fuiter, c'était un certain Daniel Ellsberg. Et il n'était pas tout seul, il avait des complices, et parmi ses complices, il y avait un certain Howard Zinn, l'historien Howard Zinn, oui, dont on nous a parlé souvent dans cette émission, et puis un autre linguiste fameux, Noam Chomsky. Oui, Chomsky était dans ce coup-là. Voilà, c'est avec lui qu'on va passer cette heure. Vous avez vu, il y a un film de Michel Gondry sur Chomsky, qui n'est pas mal du tout, qui présente sans doute un certain intérêt, même un intérêt certain, mais qui a permis, Chomsky parlant un peu de sa vie et surtout de sa science, la linguistique, mais pas de politique, eh bien ça a permis de le rendre sympathique, de faire passer auprès du public, auprès des médias, un autre visage de ce grand bonhomme qu'est Noam Chomsky. Nous, c'est évidemment le côté plus politique qui nous intéresse jusqu'à 16h ou presque. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour tous les AMG et des nouvelles du Café Repère d'Enavoumont qui aura lieu donc le 5 juin à la Belle Anglaise, place Wagon, à Hénin-Beaumont à partir de 20h. Alors le thème abordé nous concerne tous puisqu'il risque d'impacter lourdement notre vie quotidienne. Je veux parler du grand marché transatlantique, GMT ou TAFTA, suivant qu'on soit français ou anglo-saxon. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Karine Boulogne, professeure de lycée, qui viendra nous guider et nous éclairer dans notre réflexion. Venez nombreux, Café Repère d'Hénin-Beaumont, le 5 juin, la Belle Anglaise, à partir de 20h. Allez, et on ne lâche rien.
Bonjour, le Parti Socialiste fait une politique de droite. Donc, les gens de gauche ne votent pas pour lui. Mais les gens de droite non plus. Ils peuvent pas, ça s'appelle Parti Socialiste. Même si le Parti Socialiste faisait la politique la plus à droite possible, même s'il faisait exactement le même programme que l'UMP, on leur a appris au catéchisme que les socialistes, ils avaient des couteaux dans les dents pour manger les enfants. Donc, qu'est-ce qui reste au Parti Socialiste? Il reste les gens de gauche qui voudraient une politique de droite, ou les gens de droite qui n'auraient pas fait attention que ça s'appelle Parti Socialiste. Ça fait pas beaucoup de monde, hein. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils arrivent encore à faire 14%. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil et Noam Chomsky. La vérité, mais pourquoi faire ?
The truth is one of the very few weapons we have to try to improve the world. And I don't think it's worthless.
La vérité est une des rares armes que nous ayons pour améliorer le monde, et je ne pense pas qu'elle soit sans valeur.
I think it's not as respected and honored as it ought to be.
Même si elle n'est pas assez respectée et honorée aujourd'hui, la vérité est un outil très utile pour changer la société. The truth.
People are treating Google. Les gens considèrent Google comme leur meilleur ami. Should they be? Ont-ils raison?
Si vous souhaitez que personne ne soit au courant de certaines choses que vous faites, peut-être devriez-vous tout simplement ne pas les faire.
Eric Schmidt, PDG de Google jusqu'en 2011.
Tous les moteurs de recherche, dont Google, conservent des données personnelles pendant un certain temps.
Est-ce qu'on peut imaginer une société, un monde...
Il n'y a plus de secrets, vous n'avez plus de vie privée, vous n'êtes plus protégé, comme ça vous avez ce sentiment d'être observé partout, toujours, dans les moindres replis de votre intimité. Est-ce que c'est imaginable ?
You don't have to imagine.
Pas besoin de l'imaginer, c'est ce qui est en train de se passer.
You don't have to imagine that it's happening. That it's happening. That it's happening. Happening, happening. The truth. The truth.
Ouais, c'est, ça devrait être, et c'est en principe, notre boulot, le rôle des médias que de dévoiler la vérité. Quelle vérité ? De quelle vérité s'agit-il ? Il s'agit de ce que le pouvoir dissimule. Le pouvoir, par nature, ne fait pas ce qu'il dit, ne dit pas ce qu'il fait. C'est la stratégie du pouvoir, c'est ainsi que le pouvoir s'obtient. Et que le pouvoir se maintient. Et bien sûr que la démocratie veut que les citoyens soient éclairés sur ce que fait le pouvoir, ce que prépare le pouvoir. Et pour cela, il faut que le pouvoir soit transparent et que nous ayons les moyens de cette transparence. Alors, en principe, le journaliste, les médias, comme on dit, ce travail là doit faire ce boulot. C'est pas facile, c'est souvent opaque et c'est souvent ça donne lieu, bien sûr, vous le savez, à des manipulations très nombreuses. Mais il se trouve parfois qu'en effet les journalistes, les médias parviennent par des moyens qui sont pas toujours très orthodoxes, qui parfois sont assez transgressifs, même dans les cas qui nous intéressent aujourd'hui. On ne peut pas dire le contraire, mais il s'agit d'éclairer le monde en vue de son émancipation, pas moins. Parce que le pouvoir exerce le pouvoir, comme l'on dit, en notre nom, in our name, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est ça la démocratie, hein ? Ces gens nous représentent et exercent le pouvoir en notre nom. Il y a eu un mouvement très important, vous le savez bien, aux États-Unis, au temps de la guerre du Vietnam qui s'est achevée en 1975. La génération de l'historien Howard Zinn ou Noam Chomsky ont été extrêmement actifs dans cette histoire. Une histoire qui se basait sur The Red Scare, c'est-à-dire la peur du rouge. Hein, c'est une histoire qui a commencé... Allez, on va dire avec la révolution bolchevique de 1917 et qui s'est achevée en 1989 avec l'effondrement de l'Union soviétique et la chute du mur. Mais pendant tout ce temps-là, le communisme a été l'ennemi, a été le mal, a été le monstre, cet animal dangereux avec son couteau entre les dents. Et la guerre du Vietnam reposait bel et bien là-dessus, sur la lutte contre le rouge, contre l'ennemi, contre le mal qui nous menaçait. C'était pas une attaque, en aucun cas. Impérialisme, mais de quoi vous parlez ? Ah, si vous dites impérialisme, c'est que vous êtes vous aussi communiste. Non, il s'agit de défendre les États-Unis, de défendre la civilisation, de défendre la démocratie. Or, il y avait des gens comme ceux que je viens de citer et d'autres qui mettaient tout cela en doute. Et puis, il y a eu, en 1971, la publication de ces Pentagon Papers, ces papiers, ces documents venant de l'armée américaine, venant du ministère de la Défense, le Pentagone, montrant quelles étaient les intentions, quelles étaient ce qui se disait au cours des réunions. Les documents ont été ainsi publiés et ont dévoilé les véritables intentions, la véritable stratégie qui ne correspondait évidemment en rien avec la propagande. La question qui intéresse des gens comme Noam Chomsky, c'est est-ce que ça a contribué à mettre un terme à cette guerre ? Et puis, cette guerre qui est pour tous présentée, qui dans l'histoire reste une défaite pour les États-Unis en principe, était-elle vraiment une défaite pour les États-Unis? C'est pas tout à fait le point de vue de Noam Chomsky, qui, vous le savez bien, est un critique, un contempteur, comme on dit, assidu de la politique de son pays, de la politique extérieure de son pays à travers le monde. C'est avec cet homme-là que nous passons cette heure jusqu'à 16 heures ou presque.
Have you heard about Chomsky? Look out. Like Lemmy and Motorhead. Come on. Like Joey Ramone. It's known. And the SG. Chomsky. Chuck Public Enemy. Yeehaw. A hero from a galaxy. Look out. Freedom knows no boundary. A total intellectual. An eclectic intellectual. It's known. 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 Known.
Chomsky, 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 known. D'abord, on est très heureux de revenir là et de vous revoir, professeur Chomsky. Et là, on voudrait travailler sur les whistleblowers, c'est-à-dire ces individus, Snowden, Mannings, Assange, qui tout d'un coup révèlent des choses qui mettent vraiment en cause le système et l'administration américaine. Mais en commençant, si vous voulez bien, par parler du Pentagon Papers de Ellsberg, parce que là, vous étiez compromis dans cette affaire avec Howard Zinn, à l'époque, en 1971.
All of them are reaching to the general public and letting them know what their elected representatives are doing. That's the way a democratic society is supposed to function.
Ce qu'ont fait toutes ces personnes, c'est qu'ils sont allés dire au public ce que leurs élus font vraiment. Et c'est comme ça que devrait fonctionner toute société démocratique.
In the case of Dan Ellsberg, it was providing access to a historical document, a history of the war in Vietnam as perceived by the Pentagon, using internal documents and so on.
Dans le cas de Daniel Ellsberg, lui, il a rendu public des documents secrets qui racontaient l'histoire de la guerre au Vietnam depuis le point de vue du Pentagone.
Quel a été le rôle de Howard Zinn dans cette affaire?
Well, he helped distribute the Pentagon Papers. He was a friend of Dan Ellsberg's, as I was, and there were several people to whom Ellsberg had given the papers. I had actually read them carefully, and we were distributing them to the press.
En fait, Howard Zinn, qui était un ami de Daniel Ellsberg, et moi aussi, qui étions amis, on a eu accès aux documents, il nous a confié les documents, ainsi qu'à d'autres personnes, et nous, on s'est chargé de les communiquer à la presse.
It was quite interesting to me that in that period, I and I suppose Howard Zinn were being approached constantly by media who wanted some access to the papers all over the United States, all over the world.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Howard Zinn et moi étions sans cesse contactés par des médias qui voulaient avoir accès à ces documents, des journalistes du monde entier.
But the FBI could never find us.
Mais le FBI n'a jamais pu nous trouver.
For some reason, the media had no problem. They're calling me all the time. Now, the FBI didn't come to my house until after Ellsberg had gone public, appeared in public and identified himself.
Alors que les médias n'arrêtaient pas de m'appeler, le FBI n'est venu chez moi qu'après que Daniel Ellsberg soit sorti de la clandestinité.
Interesting indication of how effective the intelligence services are.
Ce qui donne peut-être une idée de la compétence des services de sécurité américains.
There was one volume of the Pentagon Papers that Ellsberg did not release. It was the one on ongoing negotiations. He felt that it might interfere with some sensitive diplomatic process.
D'ailleurs, il y a un volume des Pentagon Papers que Daniel Ellsberg n'a pas rendu public à l'époque. C'est celui des négociations en cours, pour ne pas interférer avec le processus diplomatique.
In the case of the other revelations as well, the other documents, all of them have partially withheld material that they thought conceivably might be relevant to some authentic security interest.
Et pour ce qui est des révélations de Snowden, Mannings et Assange, eux aussi ont expurgé des informations qui leur semblaient vraiment poser d'authentiques questions de sécurité.
Mais la différence quand même avec Ellsberg, c'est que lui n'a pas été emprisonné, il est resté libre. Alors que Mannings ou que ce soit Snowden, eux sont lourdement ou condamnés ou poursuivis aujourd'hui.
Well, Ellsberg was brought to trial.
Mais il y a eu un procès Ellsberg.
In fact, he would have been convicted. It was a kind of an accident that he wasn't convicted.
Il aurait même dû être condamné. C'est presque par accident qu'il a échappé à la sentence.
I was actually on the witness stand at the moment when the trial was canceled.
D'ailleurs, moi, j'étais sur le banc des témoins le jour où le procès a été annulé.
What happened is that President Nixon had tried to bribe the judge. He had offered the judge an appointment, I think, as head of the FBI, right in the middle of the trial, which is, of course, grossly illegal.
Ce qui s'est passé, c'est que le président Nixon avait tenté de corrompre le juge en lui proposant, en plein milieu du procès, une promotion à la tête du FBI, ce qui est bien sûr totalement illégal.
And while I was testifying, in fact, the judge interrupted the trial and declared a mistrial, and that ended the prosecution.
Et alors même que moi je témoignais, le juge a interrompu le procès en annulant les poursuites à cause de cette intervention du président Nixon.
If it hadn't been for that, he'd have been in jail for many years.
Et s'il n'y avait pas eu cette affaire-là, Ellsberg aurait été en prison pour de longues années.
En juin 1967, McNamara commande au Pentagone une étude historique approfondie de l'engagement américain au Vietnam.
Les dossiers secrets du Pentagone.
Nous nous sommes adressés à la Rand Corporation pour recruter des spécialistes des études historiques. Et l'un d'eux était Daniel Ellsberg.
Arte, 21 avril 2010.
J'étais loin d'imaginer que ma participation à cette étude allait changer ma vie et le cours de l'histoire.
Daniel Ellsberg.
En découvrant l'histoire de cette guerre depuis l'origine, j'ai été plus affecté que je ne le pensais. J'ai remis en question la légitimité même de la guerre. J'ai compris que c'était une guerre américaine depuis le début. Nous étions responsables de centaines de milliers de morts, d'un massacre que rien ne justifiait et qui faisait de nous des meurtriers. Il fallait arrêter les meurtres.
And I thought, all right, I have in my safe.
Je me suis dit, j'ai dans mon coffre des centaines de pages qui éclairent cette politique du mensonge. Je ne veux plus cautionner cette imposture.
Pattern of deception. I'm not going to be part of this system of lying anymore.
En mars 1971, Ellsberg transmet le dossier à Neil Sheehan, un reporter du New York Times.
Just because some guy's going to be a martyr, we can't be in a position.
Richard Nixon.
Même s'il veut jouer les martyrs, on ne peut pas le laisser continuer ses fuites massives. Sinon, il va finir par faire des émules. Il faut s'attaquer au type qui a tout monté, et c'est Daniel Ellsberg. Il faut coincer ce fils de pute.
Quel a été l'impact du Pentagon Papers sur la politique extérieure américaine et sur la politique vis-à-vis du Vietnam?
Well, I wish there had been a substantial impact, but I don't think there really was. For one thing, there was almost no attention paid to them.
J'aurais aimé que la publication des Pentagon Papers ait des conséquences. Malheureusement, pas tellement.
I'll give you a dramatic example. Right after the Pentagon Papers were released, the government released its own version, about 20 volumes of documents covering the same period and with similar information.
Parce que immédiatement après la publication de ces documents, le gouvernement américain a publié sa propre version en 20 volumes des Pentagon Papers.
I had read the Pentagon Papers before, so I was beginning to write about them, but when the government edition came out, I wanted to read what they had. So I arranged with the political science library to order the volumes. And then as soon as they came in, I read them and took the information I wanted and returned them.
Et moi, qui étais en train d'écrire à ce sujet, j'étais en train de travailler dessus, j'ai voulu consulter la version proposée par le gouvernement. Donc j'ai demandé au département de sciences politiques ici du MIT de les acquérir afin que je puisse les consulter et leur rendre.
So just out of curiosity, I did publish a book about it. About 6 months later, I went back to the library to see who else had taken them out. Answer, nobody.
Et par curiosité, je suis allé voir, quelques mois après, 6 mois après les avoir empruntés, consultés, écrit mon livre et rendu, combien de personnes étaient allées les voir. Et j'étais le seul.
This is a political science department, but no one was interested enough to even look at the documentary record that the government had released. And that's pretty typical.
Pas une seule personne n'était allée consulter ces documents, alors que c'est le service de sciences politiques du MIT. Ça prouve bien qu'il y a un manque d'intérêt pour cette question-là.
In the press and general discussion, about the only interest was in one question. Had the government told the truth about the level of success in the war? That was about the only question that was asked.
La seule question qui intéressait la presse, qui intéressait le débat public, en fait, dans tous ces documents, c'était est-ce que le gouvernement avait, oui ou non, menti quant au succès des opérations militaires au Vietnam? C'est la seule chose qui attirait l'attention.
There is interesting material, but that was almost never discussed. So the most interest, I thought, was how did the U.S. get into the war in the first place? What were the motives for the war? What were they trying to achieve? What were the war aims?
Alors qu'il y avait des documents intéressants qui n'ont jamais été discutés, jamais été étudiés. Et pour moi, par exemple, la question essentielle qui méritait d'être posée, c'est quelles étaient les raisons pour l'entrée en guerre des États-Unis? Quelles étaient les finalités? Quels buts étaient recherchés en entrant en guerre au Vietnam?
And my feeling is that when you look at those motives, you conclude that the United States actually won the war, contrary to usual claims.
Et en regardant ces documents avec du recul, ce dont on s'aperçoit, c'est que par rapport à leur but premier, les Américains ont effectivement gagné cette guerre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent.
This is really war.
Ceci est vraiment une guerre.
Lyndon Johnson, président des États-Unis.
It is guided by North Vietnam and it is spurred by communist China.
28 juin 1965.
C'est une guerre menée par le Nord Vietnam et soutenue par la Chine communiste. Leur but est de conquérir le Sud et de mettre en échec le pouvoir américain. Pour étendre l'emprise communiste sur l'Asie.
And there are
et les enjeux sont de la plus haute importance. La plupart des nations non communistes d'Asie ne peuvent pas résister toutes seules à la puissance croissante et l'ambition de conquête du communisme asiatique. Notre puissance est donc un bouclier indispensable. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, nous sommes au Vietnam.
Original motives were concern that Vietnam could become a successful, independent model of development, which would influence others in the region to pursue the main course.
Or, les raisons originelles de tout cela, c'était la crainte que le Vietnam devienne une réussite, un modèle de développement indépendant, et que de ce fait, il influence d'autres pays qui voudraient suivre ce modèle.
It was what Henry Kissinger later called a virus that might spread contagion, the virus of successful development.
C'est ce que Henry Kissinger apprendra plus tard, le risque de la contagion de ce virus dans la région. Ce virus était celui d'un développement réussi.
If you have a virus that's going to spread contagion, what you do is destroy the virus and inoculate those who might be affected. And that was done. Vietnam was destroyed, not a successful model for anything.
Et quand vous avez des risques de contagion d'un virus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord détruire ce virus et ensuite vacciner, protéger ceux qui pourraient en être la cible. Et c'est ce qui a été fait. Le Vietnam a été complètement détruit pour ne plus pouvoir servir de modèle à qui que ce soit.
And vicious dictatorships were imposed in every country of the region, which suppressed any threat that there might be a democratic development.
Et dans tous les pays avoisinants de la région, des dictatures violentes ont été mises en place afin d'empêcher tout espoir de sursaut pour un développement démocratique.
And the final step was 1965 when Suharto carried out a murderous coup in Indonesia, killing hundreds of thousands of people, crushing the popular movement, opening the country to Western exploitation, and at that point the US had essentially won the war.
Et la dernière étape de tout ce mouvement, c'était en 1965, quand Suharto a fait son violent coup d'État, assassinant des centaines de milliers de personnes, réprimant tout mouvement d'émancipation et surtout ouvrant toutes grandes les portes du pays aux investisseurs étrangers.
Yeah. And it's quite important that during the same period, the US was carrying out exactly the same policies in Latin America.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'exactement à la même époque, les États-Unis menaient exactement la même politique en Amérique latine.
Allende, for example, was Kissinger called a virus who might spread contagion. So you destroy the virus and install murderous dictatorships throughout the region, and then you have it under control.
Par exemple, Allende, qui était présenté lui aussi par Kissinger comme un virus, le virus a été détruit et là aussi on a installé des dictatures meurtrières dans toute la région pour empêcher ces virus démocratiques de se propager.
And as you can easily determine, nothing like this is ever discussed in the literature.
Et comme vous pouvez facilement l'imaginer, rien de tout ça n'est évoqué dans la littérature spécialisée.
Sauf que tout ça figurait noir sur blanc dans les Pentagon Papers.
It was in there, but it wasn't discussed. I mean, I wrote about it, a few others, but almost nobody.
Oui, ça y était, mais personne n'en parlait. Moi, j'ai écrit à ce sujet. Quelques autres aussi ont écrit à ce sujet, mais à part ça, ça n'intéressait personne.
I mean, let me just say that even on the left, the general conclusion is the government conclusion. The U.S. lost the war. And if you don't look at the motives, it looks like that.
Et regardez, même à gauche, la conclusion qui est tirée, c'est la même conclusion que celle qui est tirée par le gouvernement, c'est « les États-Unis ont perdu la guerre », sans voir que les motifs réels ont été atteints.
Autrefois, il y avait beaucoup de Chinois communistes à Medan. J'avais un annuaire des membres du Parti communiste, un gros annuaire. C'était comme ça que je savais où ils étaient.
The Act of Killing, un film de Joshua Oppenheimer, 2012.
Indonésie, 1965. Un coup d'état militaire renverse le gouvernement. Ceux qui s'opposent à la dictature militaire risquent qu'on les accuse d'être communistes, qu'ils soient membres des syndicats, paysans sans terre, intellectuels ou chinois. En moins d'un an, et grâce à l'aide de gouvernements occidentaux, plus d'un million de communistes furent massacrés.
Je peux dire qu'ici, il y a beaucoup de fantômes. Beaucoup de gens sont morts.
Et pas de mort naturelle.
Non, pas de mort naturelle. Les condamnés arrivaient en bonne santé. On les abattait ici.
C'est aujourd'hui ce film-là dont vous entendez les échos, The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer. Vous pouvez trouver ce film. C'est hallucinant, les assassins de cette époque, les exécuteurs de cette époque parlent ouvertement, se marrent, rappellent le bon vieux temps où ils massacraient, où ils torturaient, autour des années 65, 65 et après. Et on dit un million de victimes. Nous avions fait des reportages avec Guy Van Til en 98 dans cette Indonésie et on avançait le chiffre à l'époque de 500 000, 600 000 victimes. On évoquait les goulags et on avait rencontré, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, un très grand écrivain, Pramédia Anantateur, qui est, on pourrait presque dire, le seul Solzhenitsyn de l'Indonésie, sans avoir fait le même virage que Solzhenitsyn. De tout ça, on n'a jamais entendu parler. C'est un angle mort. Personne ne s'intéresse. À chaque fois qu'on évoque ces massacres de 500 000, 1 million de morts, vous voyez, c'est pas très précis. Ça rentre pas dans les mémoires, ça rentre pas dans les esprits. À la mort de Suharto, il a reçu dans la presse américaine de très grands hommages et dans la presse française également, alors qu'il s'agit bel et bien d'un assassin.
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the guns, you that hide behind walls, you that hide behind disks, I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but built to destroy, You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon, and I'll watch while you're lowered down to your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui pour Snowden? Ce qu'a révélé Snowden, c'est que les États-Unis, à travers NSA, se livraient à un contrôle universel. Ça a beaucoup frappé les imaginations, surtout à partir du moment où c'est les gens importants, les élites, qui se sont aperçus qu'elles étaient contrôlées. Mais est-ce qu'on peut comparer les deux révélations?
Yeah, well, it was the Snowden revelations which gave an indication of the vast scope of surveillance and picking up everything that happens, probably this conversation, almost anything gets picked up. Anything that has a digital character to it is likely to be picked up.
En fait, ce qu'a révélé Snowden, c'est que tout ce qui passe, transite par les canaux digitaux, peut être surveillé, peut être écouté, est écouté, comme les, probablement cette conversation que nous avons.
The fact that it was happening is not surprising. That's the way governments behave. Every government, French government, Brazilian government, Chinese government, and of course the US's government has been doing it for a long time. What was surprising, to me at least, was the scale.
Mais ce qui est intéressant de voir, et ce qui moi m'a surpris, c'est l'ampleur de tout ça. Parce qu'à travers toute l'histoire, ça a toujours existé, et tous les gouvernements ont voulu surveiller leur ennemi, c'est-à-dire leur propre population, leur propre sujet. Or, ici, avec les nouvelles technologies, c'est l'ampleur de cette surveillance possible qui est extraordinaire. Sinon, la France le fait aussi, le Brésil le fait aussi, la Chine le fait aussi, mais simplement avec son avantage technologique, les États-Unis ont pu étendre ça à absolument toutes les communications.
If you read the technical journals, you can get a sense of what's coming. So, for example, it's now possible to, and in fact it's happening, to construct the components of computers, them in such a way that they register every keystroke and send it off to whoever it is who constructed the computer.
Si vous regardez, par exemple, la presse spécialisée informatique, vous pouvez apprendre des choses sur ce qui est en train de se préparer. Et par exemple, ce qui est en train de se préparer, c'est que les nouveaux composants informatiques qui sont au cœur des systèmes informatiques aujourd'hui peuvent enregistrer chacune des touches que vous frappez sur votre clavier et les envoyer à celui qui a construit le système.
For some years now, the Pentagon has been developing very small drones. The idea is to get them small enough to be the size of a fly. So they could be on the ceiling of your living room and you wouldn't notice it, and they would be observing and reporting everything that's happening, and sooner or later probably equipped with lethal capacity.
Par exemple, un des champs sur lesquels travaillent les services secrets, c'est la réalisation de drones miniaturisés, mais tellement miniaturisés qu'à terme le but c'est qu'ils aient la taille d'une mouche et qu'ils puissent se mettre sur le plafond de votre salon et vous surveillez chacun de vos faits et gestes avec, dans un futur plus ou moins proche, la capacité aussi de faire des attaques mortelles.
Est-ce qu'on peut imaginer une société, un monde
où il n'y a plus de secrets, où vous n'avez plus de vie privée,
vous n'êtes plus protégé, comme ça vous avez ce sentiment d'être observé partout, toujours, dans les moindres replis de votre intimité. Est-ce que c'est imaginable ?
You don't have to imagine it, it's happening.
Pas besoin de l'imaginer, c'est ce qui est en train de se passer.
I mean, if you're walking in the streets of London, for example, almost everything you do is recorded and sent somewhere.
Si vous vous baladez, par exemple, dans les rues de Londres, il y a un tel maillage de télésurveillance que chacun de vos déplacements peut être reconstitué et surveillé.
If your cell phone is on and you're traveling around the city, there's information about exactly where you're going, who you're talking to, it goes straight off to the database in Utah, you know.
Pareil avec l'usage de votre téléphone portable. Le simple fait que vous déplacez avec votre téléphone portable en poche fait que toutes les informations sur votre comportement sont envoyées dans le centre de surveillance de la NSA dans l'Utah.
And also to commercial enterprises, to Google, Yahoo, they want to know what you're doing too, so that they can sell you things.
Mais ça va aussi vers des entreprises privées comme Google, comme Yahoo, qui ont tout intérêt à savoir ce que vous faites.
Mais quelles vont être les conséquences sur nos comportements, sur nos liens sociaux, sur nos vies?
It's a good question. I haven't seen a real careful study, but from just informal investigation, my impression is that this is a matter of concern to older people, but not to younger people.
C'est une bonne question. Même si j'ai pas encore lu d'études à ce sujet, l'impression que j'en ai intuitivement, c'est que c'est un souci plus pour les personnes d'un certain âge que pour les jeunes.
I've noticed even with my own grandchildren that when this was all revealed, they kind of shrugged their shoulders and said, "So what?" You know, I mean, they're putting everything on Facebook anyway, so why shouldn't it?
Quand je vois par exemple mes petits enfants et que je leur parle de ça, ils haussent les épaules et disent, "Ouais, et alors?" Parce que de toute façon, ils racontent toute leur vie sur Facebook déjà.
Je vais évoquer un souvenir personnel. Ma mère était catholique et elle me disait quand j'étais enfant, Dieu te regarde même quand tu es au cabinet. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans la même situation, on va vers la même situation. Ce sentiment d'être observé partout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce contrôle, ça remplace le Dieu que ma mère imaginait.
Yeah. Well, that's actually the head of Google, one of the directors of Google, Eric Schmidt, was interviewed about something called Google Glass, and he was asked whether this isn't an intrusion on privacy. And his answer, I think, is the slogan of the modern age. He said, if you're doing something that you don't think is wrong, everyone should know about it.
Monsieur Schmidt, qui est un des dirigeants de Google, je lui disais dans une interview qu'il donnait récemment au sujet des Google Glass, ces nouvelles lunettes qui permettent d'avoir une réalité augmentée. Eh bien, on lui posait cette question, mais qu'est-ce que vous faites du droit à la vie privée? Ce à quoi il répondait, ça pourrait être résumé un peu le slogan de l'époque qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire, si vous ne faites rien d'illégal, alors qu'avez-vous donc à cacher?
Why shouldn't everything be on the internet?
Pourquoi tout ne devrait pas se retrouver en ligne sur Internet?
I was trained as a spy.
J'ai été entraîné comme un espion au sens littéral du terme.
I lived and worked undercover.
J'agissais sous couverture à l'étranger, en prétendant faire un travail que je ne faisais pas, et même sous un faux nom.
France Inter, 28 mai 2014.
Et je le faisais pour le compte des États-Unis. Le gouvernement s'efforce de nier cela, de le minorer en disant que je n'étais qu'un analyste de niveau inférieur, et pour cela, ils utilisent une position que j'ai eue à un moment ou à un autre pour détourner l'attention de l'ensemble de mon parcours. J'ai travaillé pour la CIA, sous couverture. J'ai travaillé pour la NSA, sous couverture à l'étranger. Et j'ai travaillé pour l'Agence du renseignement du Pentagone, où j'ai développé des réseaux et des méthodes pour préserver nos informations et la sécurité des gens dans les zones les plus dangereuses de la planète. Donc quand ils disent que je suis un administrateur de systèmes informatiques de seconde zone, je ne vois pas de quoi ils parlent et je trouve cela fallacieux.
On a quelque chose en commun, c'est que nous croyons à la vérité. Vous croyez que la vérité est utile, vous aurez passé votre vie à essayer de révéler des vérités. Mais on peut se demander à quoi sert la vérité. On voyait que Philip Morris a été très très lourd de condamnation. Mais aussi, l'obligation a été faite à Philip Morris de publier leurs archives, etc. Mais Philip Morris va bien, Philip Morris continue. Et le tabac, ça continue, le cancer continue. À quoi a servi le travail de ceux qui ont révéler les turpitudes de Philip Morris?
Well, I don't. A truth is one of the very few weapons we have to try to improve the world. And I don't think it's worthless.
La vérité est une des rares armes que nous ayons pour améliorer le monde, et je ne pense pas qu'elle soit sans valeur.
I think it's not as respected and honored as it ought to be, but it's still an effective weapon for organization, education and social change.
Même si elle n'est pas assez respectée et honorée aujourd'hui, la vérité est un outil très utile pour ce qui est d'organiser, d'éduquer et changer la société.
So for example, just take the one case I mentioned, the actual motives for the Vietnam War and the analogy between US policies in Indochina and Latin America and what that reveals about the United States, but also about the nature of state power in general. That's not understood, but it will be someday.
Prenons par exemple le cas que je mentionnais sur les vraies raisons de l'intervention militaire américaine au Vietnam et sur la comparaison entre sa politique en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Tout ça est très intéressant sur ce que ça révèle de la politique états-unienne et plus généralement de la politique menée par les États. Peu de gens sont conscients de ça. Je ne pense pas que ça soit encore compris aujourd'hui, mais je suis sûr que ça sera compris un jour.
And when it is understood, it may lead to a significant change in policies.
Et le jour où ça sera compris, je pense que ça amènera des changements significatifs dans les politiques qui sont menées.
Or to take a more dramatic case, right now we are facing the possibility, likelihood, of destroying the conditions for decent human existence. And it's pretty close.
Prenons un cas encore plus grave qui nous concerne directement aujourd'hui, c'est la possibilité à laquelle nous faisons face de voir une extinction de la vie telle qu'elle existe sur Terre, en particulier à cause du réchauffement climatique.
There's an enormous corporate-funded campaign to deny it, and it has effects. So probably about maybe a third of the people in Congress don't believe it, and they're able to block actions to help perhaps save the human species in the future.
Eh bien, il y a une campagne menée, financée par des sociétés privées, pour dénier cette réalité-là, au point qu'un tiers du Congrès des États-Unis ne veut pas croire à la possibilité du réchauffement climatique.
There's only one weapon against this, and that's truth.
Et la seule arme qu'on ait pour lutter contre ceci, c'est la vérité.
Donc la vérité est notre seule arme.
Mais il faut se l'approprier, cette arme, et il faut apprendre à s'en servir, il faut apprendre à viser juste, et c'est un boulot qu'on n'a pas toujours envie de faire. On préfère inventer, on préfère rester au niveau de l'impression, de la sensation et des mensonges que l'on s'invente ou qu'on nous invente et qu'on appelle aussi vérité. La vérité, pourquoi faire ? Un entretien avec Noam Chomsky, enregistré au mois d'octobre dernier avec Guy Vanctil. L'homme qui a fait tomber Nixon, Daniel Ellsberg et les dossiers secrets du Pentagone, un film de Judith Ehrlich, Eric Goldsmith. Et puis The Act of Killing, un documentaire de Joshua Oppenheimer sur l'Indonésie et sur le massacre des opposants à Suharto, pour ne pas confondre. Nous vous donnons par ailleurs rendez-vous lundi à 15h au théâtre du Rond-Point de Bis Avenue Franklin Roosevelt à Paris dans le 8e arrondissement pour une émission en direct et en public autour de l'engagement. Vous entendez des spots qui passent sur nos antennes. Plus d'infos et réservations sur le site Espace Public, tout attaché, espacepublic.radiofrance, tout attaché.com, espacepublic.radiofrance.com. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette précieuse émission sur le site la-bas.org. ainsi que sur la page Facebook de La Basse si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Jean-Philippe Jeanne. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de La Basse si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve pas demain. Pas demain, on se retrouve lundi, donc à 15h, vous avez compris, au théâtre du Rond-Point, à Debis, avenue Franklin Roosevelt, Paris 8e. Tout de suite, vous retrouvez Hervé Pochon avec son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue chez Noé, qui a la visite de l'inspectrice pour voir si tout se passe bien, puisque les parents de Noé ont décidé, comme pour ses frères et sœurs, de faire l'enseignement à la maison.
Regardez, je suis en train de suivre, je m'aperçois que Noé travaille sur la maîtrise de la langue française, Noé est en train d'acquérir des éléments de langue vivante étrangère, Noé travaille en mathématiques et en culture scientifique. Tout ce que vous me présentez, ce qu'il dit, ce que je vois, en témoigne.
Que vous parliez avec lui, c'est clair. De toute façon, puisque vous venez pour l'instruction, vous allez parler autour de ses apprentissages. Mais il faut que vous compreniez que dans le cadre d'avec Noé, puisque notre choix sont les apprentissages informels, que même cette forme d'échange qui est formelle, ne devrait pas rentrer dans le cadre de la vie de Noé.
C'est votre concession.
Voilà. C'est une concession qui
devient.
Ouais, mais voilà. Ouais, mais
parce que vous êtes quand même dans un cadre réglementaire. Donc effectivement, moi je ne viens pas contrôler l'école à la maison, mais l'instruction à la maison. Donc je n'attends pas que vous fassiez l'école. Hein. J'attends juste de vérifier que Noé a des acquisitions, qu'il avance, qu'il apprend des choses, en lien, et c'est ce que j'ai sous les yeux, avec les compétences du socle commun, parce qu'au-delà des programmes, c'est maintenant nettement plus notre repère.
Vous avez des enfants ?
J'ai une fille, mais maintenant, elle est professeure des écoles.
Donc vous l'avez envoyée à l'école déjà ?
Je l'ai envoyée à l'école et elle a décidé d'y rester.
C'est marrant parce que je trouve ça très intéressant d'assister à votre rencontre parce que je comprends très bien pourquoi ça peut mal se passer. Parce que sincèrement, je pense que vous êtes admirable, madame l'inspectrice, parce que j'aurais une maman comme Valérie en face de moi, je me dirais, mais elle est en train de remettre en cause ma manière de travailler, ce que j'ai à faire, mon métier, et que finalement, je comprends que des inspecteurs ou des inspectrices peuvent un peu se braquer en disant, écoutez, je fais mon travail, je sais ce que je fais, et laissez-moi
mais
faire
mais
mon travail.
Temps, moi, je pourrais aussi me braquer et considérer comme vraiment tout à fait anormal et injustifié que quelqu'un que je connais pas beaucoup vienne chez moi me dire comment, me donner des... Voilà ce que je veux dire. Donc ça va dans les deux sens. Les choses.
Ça va dans les sens. Mais il faut quand même, je pense, considérer normal que la société s'intéresse un peu à comment sont traités les enfants dans les familles.
Bah non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas. En Angleterre, ça n'est pas le cas.
Il y a pas d'inspection.
Il y a pas d'inspection. Il y a même pas de déclaration.
Que vous le déclarez à qui ça que vous
Moi je déclare à la mairie tous les ans et je déclare à l'inspection académique tous les ans. Alors qu'en Angleterre, il y a pas de problème. Hein. Non, il y a vraiment des exemples de pays qui il y a pas de déclaration, il y a pas de contrôle.
En fait, on est au juste milieu. Il y a les Anglais, grâce à vous j'ai découvert, qui font totalement confiance, et puis il y a les Brésiliens et les Allemands qui, eux, interdisent.
Ouais, mais bon, je suis pas d'accord avec le juste milieu. Pour moi, c'est pas un juste milieu. Parce qu'effectivement, dans le cadre des apprentissages, on n'évalue pas l'enfant, justement. Il n'y a pas de ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire. Bon, si tu ne sais pas le faire, on va le faire. Non. Donc du coup, le simple fait de lui poser une question sur ce qu'il sait faire ou pas faire, du coup, ça fausse tout notre choix éducatif. On est pour l'échange informel, etc. Mais on est contre la question déguisée. Hein, donc on est contre les tests écrits et contre les tests oraux. Parce que nous, effectivement, on demande des discussions informelles, mais dans une discussion informelle, on peut aussi évaluer un enfant.
Votre inquiétude n'a pas lieu d'être.
Est-ce que vous savez qu'il y a un film qui est sorti qui s'appelle « Être et devenir » et qui parle de ces enfants qui apprennent à la maison ?
Non, je l'ignorais. Donc voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, donc je suis contente.
Est-ce que vous irez le voir ou...
Oh ben sans doute.
Bertrand, vous êtes le papa, je peux vous demander à quel moment vous vous êtes dit, tiens mes enfants, je vais pas les envoyer à l'école.
Alors pour commencer, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est mon épouse voilà, qui m'en a parlé. Voilà, et ça s'est passé maintenant il y a plus d'une dizaine d'années à peu près, où elle m'a proposé effectivement de retirer les enfants du cursus scolaire et puis de leur faire l'instruction à la maison. Voilà.
Et vous ?
Et moi, j'ai trouvé ça, que c'était une idée formidable. Voilà. Moi, en tant que chef d'entreprise, je trouve qu'il vaut mieux quelqu'un sans diplôme, qui soit partie prenante et puis qui a envie de faire les choses, qui a envie d'apprendre, qui a envie de progresser, plutôt que quelqu'un bardé de diplôme, mais qui n'a pas l'envie. Quoi. Voilà.
Et vous gardez un mauvais souvenir de l'école, vous ?
J'en garde pas un mauvais souvenir, mais j'en garde pas un bon souvenir.
On devrait vous féliciter parce que, grâce à vous, si beaucoup de familles font comme vous, l'éducation nationale va faire des économies. Et comme on cherche à faire des économies,
ça reste restreint quand même comme économie.
Ah, mais si vous lancez le mouvement, on ne sait pas. Si tout le monde faisait l'école chez soi.
Non, tout le monde ne fera pas l'école chez soi parce que, bon, c'est une démarche un peu particulière. Puis il faut avoir envie de passer du temps, beaucoup de temps avec ses enfants, etc. Mais enfin bon, moi je trouve ça formidable.
Parce que vous avez la chance, il faut le dire, d'avoir votre entreprise qui est au rez-de-chaussée de votre maison.
Ça, c'est un atout non négligeable, ça, voilà.
Et je peux vous demander ce que vous faites ?
Je suis chef d'entreprise d'une entreprise de pompes funèbres marbrerie.
Bon, et comment va le business ?
Très mal.
Ah bon, les gens meurent plus ?
Non, c'est, je dis ça en plaisantant. C'est difficile pour tout le monde, hein, contrairement à ce qu'on croit, où on croit toujours qu'on a un métier avec beaucoup d'activités. Non, c'est comme toutes les activités, c'est difficile, il faut toujours se remettre en question, et voilà.
Et Noé, est-ce que tu as une idée du métier que tu veux faire plus tard ?
Oui, dans le cinéma.
Qu'est-ce que tu veux faire dans le cinéma ?
Laissez-moi dire tout.
En fait, depuis longtemps, Noé, lui, il veut s'occuper d'un cinéma.
Bon, bah super. Ça t'a stressé de voir l'inspectrice ?
Non,
ça va. Ça s'est bien passé. Hein.
Oui.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
Hein ? Puis on se retrouve nous l'année prochaine.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
France Inter, partenaire du Festival Rock en Seine. 3 jours de rock dans le domaine national de Saint-Cloud. Avec Lana Del Rey, Arctic Monkeys, The Prodigy, Queens of the Stone Age, Jack Bug, Portishead. Tout le rock s'arrête en Ile-de-France les 22, 23 et 24 août. Renseignements sur franceinter.fr.
France Inter et le Printemps des Comédiens présentent les dernières créations de Peeping Tom, Brett Bellé, Sylvain Creusevaux et Evelyne Didi, aux côtés de spectacles mis en scène par Rodrigo Garcia, Jean-François Sivadier et Ivo Van Hove, le maître de la scène néerlandaise. Du 3 au 29 juin, au Domaine d'Eau à Montpellier. Retrouvez le Printemps des Comédiens dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est encore 16h. Les informations, Alexandra Dubouchereau.
La longue nuit des cadres de l'usine Seita à Carquefou près de Nantes. Les 5 dirigeants ont finalement été relâchés ce matin après un vote des salariés grévistes. Les syndicats refusent de parler d'échecs. Le site doit fermer ses portes. Décision le mois dernier de l'actionnaire Imperial Tobacco. Les salariés dénoncent des pressions au travail. Ils n'ont pas l'âge de voter pour la plupart, alors ils descendent dans la rue. Plus de 3000 lycéens et étudiants ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes de France contre la percée du Front National et contre l'abstention massive, 56% dimanche dernier lors du scrutin européen. À Narbonne, 2 hommes ont été blessés par balle en fin de matinée. L'un des hommes a été retrouvé à terre gisant, grièvement touché. Il est hospitalisé à Montpellier. L'autre homme s'est présenté aux urgences de lui-même à cause d'une blessure par balle. Le parquet n'a pas donné d'informations supplémentaires. Le Boeing de la Malaysia Airlines n'est pas au fond de l'eau, en tout cas pas là où on le recherchait. Aucune trace de débris n'a été trouvée dans le sud de l'océan Indien. C'est la conclusion des autorités australiennes aujourd'hui où sont coordonnés les secours. L'avion a disparu peu après son décalage de Kuala Lumpur début mars avec 239 personnes à bord. Le scandale de la viande de cheval délocalisée en Espagne. 5 personnes ont été arrêtées à Valence et à Madrid. Elles sont soupçonnées de trafic de viande de cheval impropre à la consommation. Dans le sud de la France, 21 personnes ont été arrêtées en décembre dernier dans le cadre d'un trafic similaire. En Égypte, la victoire assurée du général Abdel Fattah Sisi à la présidentielle, 96% des voix selon des résultats préliminaires. Un plébiscite sans surprise pour les observateurs de l'Union européenne. L'élection a été organisée dans le respect de la loi, mais il précise que la non-participation de certains acteurs de l'opposition a compromis la participation de tous au scrutin. On passe au tennis et Nadal impérial sur la terre battue de Roland-Garros. L'Espagnol numéro 1 mondial s'est qualifié pour le 3e tour en battant l'Autrichien Dominique Thiem. Côté français, ça passe aussi pour Pauline Parmentier. En revanche, Adrien Manarino est éliminé, tout comme Axel Michon. Et puis, Sébastien Hazard, peut-être la qualification de Kristina Mladenovic.
Ah, c'est fait, c'est fait. Elle vient de se qualifier pour le tour suivant, Kristina Mladenovic, en 3-7 face à Alison Risky. Elle n'était pas loin des larmes, hein, la Française, quand elle a levé les bras pour s'imposer dans cette partie, parce que ça a été difficile. 2h41 minutes, il lui a fallu pour venir à bout de l'américaine, 45e joueuse mondiale. Le score, 7-6 pour Kristina Mladenovic dans la première manche. En deuxième manche, elle a eu un petit coup de moins bien, de difficulté. Elle a perdu ce deuxième 7-6-3. Puis dans le troisième, elle est revenue. Elle s'impose finalement 6-3. Pas loin des larmes parce qu'elle s'était imposée contre Lina, la numéro 2 mondiale. Il fallait confirmer. Aujourd'hui, elle a réussi à confirmer. Puis sur le court central, vous l'entendez, là, c'est Richard Gasquet qui joue contre Carlos Berloc, l'Argentin. Et Richard Gasquet vient de faire le break dans le premier set. Il mène 4-2 dans cette première manche.
Roland Garros, Sébastien Hazard.
France Inter, la nouvelle application pour mobile et tablette tactile. Tout l'univers de votre radio dans votre poche. France Inter en direct. La réécoute de toutes les émissions. En téléchargeant dès maintenant sur votre mobile. La nouvelle application France Inter. Demain soir sur France Inter.
Bonjour.
Christine and the Queens. En concert.
Découvrez mon nouvel album
en public et en direct du studio 105 de la Maison de Radio France
en live sur France Inter.
Suivez aussi le concert en vidéo sur franceinter.fr.
C'est Christine Anne de Queens.
Une soirée exceptionnelle présentée par Laurence Pierre.
Retrouvez-moi en concert demain
à partir de 21h
sur France Inter.
Toutes les infos, les réservations
sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
16h04 sur France Inter et tout de suite Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vous propose aujourd'hui d'explorer un gros coffret Deka, le son Deka et les années analogiques, parce que c'est vrai que la technique change mais les talents restent. Et tout ce qu'on va entendre a été enregistré sur des bandes, mais c'était déjà très bon depuis les années 50 jusqu'à l'arrivée du compact disque, donc à partir des années 80. Et on va trouver par exemple, enregistré en 79, une très belle version de Children's Corner de Claude Debussy. Oui, c'est pour les enfants. Alors c'est pour la technique aussi, la technique elle reste toujours la même. Au piano il faut s'exercer et le docteur Gradus ad Parnassum, ben, c'est une sorte de pied de nez, ou plutôt une petite plaisanterie gentille qui s'inspire du même recueil de Clementi. Et Clementi lui-même avait pris ce titre de Fuchs, bien avant lui. Alors le docteur, évidemment, c'est juste pour rire un tout petit peu et pour amuser la petite fille de Claude Debussy, Chouchou. Thank you. Docteur Gradus ad Parnassum, tiré de Children's Corner, le coin des enfants de Claude Debussy, interprété par Pascal Roger. Donc, Gradus ad Parnassum, je le rappelle, c'est un recueil de Clementi pour s'exercer. Gradus, c'est le degré, et on arrive degré par degré au Parnasse, qui était, dans la Grèce antique, le mont des muses consacré à Apollon. Et un autre compositeur, avant Clementi, Fuchs, avait écrit aussi un Gradus ad Parnassum. Voici maintenant une symphonie militaire. Bah oui, il y en a des expressions, il y en a des mots, il y en a des qualificatifs autour de la musique. Et par exemple, la 100e symphonie de Haydn s'appelle ainsi parce qu'elle est assez cuivrée, il y a des percussions aussi. Et on va entendre une version gravée par Antal Dorati, qui a été le tout premier à donner l'intégrale de la musique pour orchestre de Haydn. C'était en 72, l'ai-je dit. Donc, finale presto.